Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, il est presque 6h, 6h moins 1 pour être précise. La première de la saison, mais aussi tout court, puisque c'est une nouvelle émission d'actu locale qui fait son apparition sur Syllab. Vous l'aurez compris, 6h avant minuit. C'est, on l'espère, votre nouveau rendez-vous radiophonique préféré, porté par les volontaires de la radio du lundi au jeudi, mais aussi par nos super bénévoles. Une information à destination des étudiants et étudiantes, mais aussi de tous les habitants et habitantes de la métropole rennaise, axée sur les thématiques culturelles, environnementales, sociales de notre territoire. À savoir aussi, les reportages que vous entendez, que vous entendrez, sont à retrouver en article sur notre site, c-lab.fr. 6h avant minuit, c'est parti, et on commence tout de suite avec le Flash Info de Cyriane.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Mais Beyrouth a été frappé en son cœur ce lundi. Le Liban déplore au moins 1500 morts depuis le début des bombardements par Israël. Le Hamas a annoncé la mort de son chef au Liban, Fatah Sharif Abu al-Amin, tué par une frappe aérienne dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Bas. D'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 100 000 personnes ont fui le Liban pour se rendre en Syrie. Aujourd'hui débute le procès des assistants et assistantes parlementaires du Front National, ex-RN, devant le tribunal correctionnel de Paris. Parmi les 27 personnes comparaissant devant la justice se trouve Marine Le Pen, l'ex-chef du parti d'extrême droite, y est visée doublement. Dans le procès, en ses qualités d'eurodéputée et d'ancienne chef du parti à l'époque, elle risque 10 ans d'emprisonnement, une amende d'1 million d'euros et une peine complémentaire d'inéligibilité. Le RN conteste tout emploi fictif et tout système frauduleux brandissant le spectre d'un complot politique et de règlement de comptes. 60 femmes, c'est le nombre de personnes accusant pour l'instant Mohamed Al-Fayed de viol et d'agression sexuelle. L'affaire révélée par la BBC ne cesse de prendre de l'ampleur. La justice aurait reçu 200 demandes et messages venant du monde entier et mettant en cause l'homme d'affaires aujourd'hui décédé. 5 femmes disent avoir été violées par le père du dernier compagnon de la princesse Diana, Dodi Al-Fayed. La direction de Harrods, magasin dont il était le propriétaire, a reconnu jeudi une culture toxique au sein du grand magasin lorsque Mohamed Al-Fayed était à sa tête. Coup dur au Rosen Park ce week-end. Le PSG s'est imposé 1-3 face au Stade Rennais. Mauvais début de saison pour les Rouges et Noirs. Pour la première fois depuis 2018, l'équipe brétilienne encaisse 9 buts lors de leurs 6 premiers matchs. A l'inverse, les Violettes de Bréquigny se sont imposées 3-1 à domicile face aux Normandes fraîchement promues de Quevilly. Elles sont 3e au classement de la poule A de la D3. Dès demain, le festival Courts-Métranges est de retour à Rennes. Et cette année, l'événement célébrant les films courts et étranges souffle ses 20 bougies. Une édition anniversaire dont Adeline Barré, coordinatrice générale du festival, nous révèle quelques détails.
En regardant la sélection Best Of, du coup, qui sont des courts-métrages primés sur les 20 dernières années, enfin les 19 du coup, il y en a qui ne sont pas du tout datés en fait. On a vraiment des séances homogènes et qui ne paraissent pas avoir... pour certains 15 ans ou plus, quoi. L'idée, c'était de pas ajouter un thème à cette année anniversaire et donc partir sur l'anniversaire. Bon, on peut pas faire que des films sur les gâteaux, hein. Donc l'idée, c'était de travailler autour de cette transition. Donc le festival a 20 ans, donc la transition jeunesse, âge adulte, l'équipe exposition. Du coup, s'est dit, ben, pour l'anniversaire, ce serait chouette de faire quelque chose qui marque et qui reste. Et donc, il lance une capsule temporelle où, en fait, des artistes qui sont exposés avec le Naya Museum vont laisser un petit croquis, un petit dessin. Et en fait, le public est invité à faire la même chose, à laisser une petite trace de leur passage aux 20 ans de court-métrage. Et donc après, on va on va pas l'enterrer, mais on va la stocker, la cacher, on la sceller d'abord et la rouvrir dans 10 ans pour avoir un petit peu un souvenir de ce qui s'était passé. Et puis peut-être pour le public qui aura laissé sa trace, redécouvrir ce qu'ils avaient laissé 10 ans avant.
Le festival de cinéma de genre a lieu jusqu'au 6 octobre prochain. Et sachez que si vous êtes abonné à la plateforme Shadows, spécialisée dans l'horreur et le film de genre, vous pouvez regarder toute la programmation de courts-métrages depuis votre canapé. Le 22 septembre dernier, Michel Barnier annonce aux 20h vouloir faire de la santé mentale la grande cause nationale en 2025. Une année qui s'avère titiller les oreilles des personnels de santé.
Et oui, sa cause, grande cause nationale à Matignon, enfin plutôt sur France 2. Mais pourquoi en parle-t-on autant ? Alors, la grande cause nationale est un label officiel attribué par concours public chaque année depuis 1977. Ce label est assigné par le Premier ministre français à un organisme à but non lucratif ou un collectif d'associations. Cet agrément leur permet tout au long de l'année d'organiser des campagnes de générosité publique et de diffuser gratuitement des messages sur les sociétés publiques de télévision et de radio. Un conseil national de la refondation CNR consacré à la santé mentale était déjà dans les plans du gouvernement français pour cet été. Cependant, notre gouvernement lui-même a été retiré du plan en juin dernier lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui a engendré l'annulation du CNR. Yann Snoblik, un infirmier en psychiatrie interviewé par France 3, cite par ailleurs que sous la présidence Macron, nos moyens ont plus baissé qu'augmenté. Il est soutenu par Marie-Josée Cortès, présidente du syndicat des psychiatres hospitaliers, qui témoigne à 20 minutes que en faire une grande cause nationale sera positif seulement si c'est suivi d'effets. En effet, la situation reste alarmante, car l'activité psychiatrique est confrontée au manque de personnel médical et paramédical. Certains personnels de santé semblent être d'avis que la visibilité des problématiques de santé mentale pourrait permettre de rendre le secteur psychiatrique plus attractif. Or, la plupart insistent sur un fait en particulier, le manque de financement au sein du secteur. Selon eux, ce manque donne lieu à des conditions de travail dégradées, rendant peu attractif le secteur, contribuant à le dégrader. Alors que 13 millions de Français, soit une personne sur cinq, présentent des troubles psychiques, selon Santé publique France.
Et en plus de ces 13 millions, il y a un chiffre important, 40% des 18-24 ans présentent des symptômes dépressifs. En attendant, pour vous changer les idées, demain, le photographe Jonathan Bertin sera en séance de dédicace à Rennes. Impressionnisme, c'est le nom du livre qu'il vient présenter. Inspiré par le mouvement du même nom, Bertin a choisi d'y laisser son imagination et ses émotions parler. La rencontre débutera à 18h au Labo Photo, Grainy Lab, 12 rue du Pont des Loges. Le 12 septembre dernier, le service culturel de l'Université de Rennes 2 faisait sa présentation de prog du SCE. Retour sur cette belle soirée ponctuée d'un concert d'Argalouve, cette année marraine du tremplin musical de Rennes 2. On y était, on vous raconte tout.
Donc moi c'est Argalouve et je suis venue avec Croqui.
Oh là, moi c'est Croqui et c'était au tambour.
C'est marrant parce qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer avec un public assis et sobre. Enfin des fois ils sont sobres mais je veux dire pas toujours. C'est chouette de jouer dans une salle un peu qui va faire plus théâtre. C'est un concert-spectacle un peu.
Ce soir vous ne serez pas Rennes 2, ce soir vous serez... anciennement Pôle emploi, actuellement France Charbonne.
Au programme donc concert, mais aussi vernissage, les étudiants et étudiantes du collectif Plastique ont invité plusieurs ateliers de sérigraphie rennais. Ensemble, ils ont imaginé l'exposition 75 Shores. Chloé, de l'atelier Bonjour, nous en dit un peu plus.
On est allé un petit peu au-delà de juste montrer des belles reproductions, enfin voilà, des belles impressions, plutôt les aspects techniques en fait. Parce que c'est une technique justement qui n'est pas simple à comprendre, donc bon, autant s'amuser avec des objets qui montrent un peu l'atelier, quoi.
À la sortie du vernissage, Baptiste Brun, vice-président à la culture et à la documentation de Rennes 2. Il le rappelle, un autre lieu d'exposition de l'université sera actif toute la saison, malgré sa fermeture.
La galerie ARSC, en fait, à l'origine, c'est un lieu, un lieu important à la fois pour les formations, à la fois pour la culture à Rennes 2. Et donc elle est fermée, cette galerie, parce que ça participe de la rénovation énergétique du bâtiment H, de la BU. C'est pas parce que ce lieu est fermé en fait, que la galerie n'existe plus. La galerie, elle se projette hors les murs sur le campus. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que précisément, on noue un fil encore plus serré avec l'essai qui est dans Galerie et Essai. et que il y a une programmation là qui est mise en place par Yann Serandour et Emeline Jarret. Et bah, je suis très très curieux de découvrir ce qu'ils ont concocté en fait au fil de l'année et aussi des années qui vont suivre parce que ça va durer pendant 3 ans ce Hors les Murs.
Il faudra donc ouvrir les yeux et les oreilles toute l'année sur le campus.
On en profite pour préciser que l'exposition sérigraphique 75 Shore est visible jusqu'au 23 octobre dans le hall et sur la mezzanine du tambour. Et on vous donne dans quelques minutes plein d'informations sur la saison culturelle qui s'annonce à la fac avec notre toute première invitée.
6 heures avant minuit.
Merci Cyriane. T'avais quelque chose à rajouter ?
Oui, Ayana Kamura à Rennes 2.
Ah mais oui, on a manqué une info. Vas-y, je t'en prie, finis ton flash.
Pardon, fausse alerte. Toutefois, mercredi commencera un colloque sur la chanteuse la plus écoutée au monde à l'université. La journée d'études sera gratuite et ouverte à toutes et tous. Alors, fans d'Aya, venez défendre l'icône de la dernière cérémonie des JO. Et qui sait, peut-être aura-t-on le droit d'entendre de très sérieux et sérieuses universitaires chantonner « Oh, dja, dja » ou encore parler de Pookie dans le sas.
Merci Cyriane, mais quelle voix! J'espère qu'on aura l'occasion d'entendre tes talents de chanteuse.
Un freestyle
bientôt dans 6 heures avant minuit. Merci Cyriane pour ce flash. On passe à l'interview. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Dessin, je ne sais pas si je prononce bien, Dessin, responsable du service culturel de l'université Rennes 2. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Alors, cheveux couleur automne, boucles d'oreilles colorées, ongles habillés et sourire aux lèvres, c'est bien Sarah Dessin que j'ai en face de moi. Rentrons directement dans le bain en parlant des ondes, de ce thème qui nous lie, nous la radio et vous la mer, ce fil conducteur commençant dès maintenant et jusqu'à la fin de la saison culturelle 2024-2025. Pourquoi ces ondes ? Qu'est-ce qu'elles signifient ?
Oh là, la première question.
Un peu large peut-être.
Si je suis honnête, c'est qu'en fait, cette saison, contrairement aux années passées, ne s'est pas imposée directement à nous un thème. Sur la saison dernière, par exemple, on avait un thème par semestre qui était assez évident et autour duquel on a construit la programmation. Cette année, les choses ne se sont pas faites comme ça et le fil conducteur thématique, en tout cas, n'est pas apparu tout de suite. Et puis, j'ai fait un rendez-vous de travail avec Clément Pascot, qui est le metteur en scène du spectacle qu'on accueille dans 15 jours, le spectacle Serena. Et en échangeant avec lui et en parlant de la saison, etc., lui m'a dit, mais en fait, ton fil conducteur n'est pas thématique, mais il est formel. En fait, vous travaillez sur la question des ondes, effectivement, maritimes. Mais il y a beaucoup de rendez-vous autour du podcast, de la création sonore. On accueille une pièce de théâtre radiophonique en février, etc. Et il m'a dit, mais en fait, ton fil, tu l'as. Et je me suis dit, merci Clément, parfois on est tellement le nez dedans qu'on ne voit même plus ce qui est évident. Et donc là, ça m'a un petit peu soulagée parce que la manière de présenter la saison quand on n'a pas de fil conducteur ou de thématique à annoncer pour la présentation notamment de saison du 12 septembre, c'était pas évident pour moi de savoir par quel bout j'allais prendre les choses. Et en fait, tout s'est dénoué à partir du moment où j'ai identifié que finalement, il y avait ce lien-là.
Pour commencer avec les pieds sur terre, avant de s'aventurer dans le grand large, qu'est-ce que c'est le service culturel de l'Université de Rennes 2, concrètement ?
Alors, le service culturel de l'université, c'est un service de l'administration. On est 6 et on travaille toute l'année à proposer sur le campus, pour les étudiants et les étudiantes, mais pas que, pour les personnels et pour les habitants de la métropole et du quartier en particulier, une programmation pluridisciplinaire qui s'attache à être en lien et en complémentarité avec les disciplines qui sont enseignées à Rennes 2. Donc on va essayer de proposer des projets qui viennent interroger des thématiques que vous, étudiants et étudiantes, vous pouvez explorer dans vos cours de sociaux, d'histoire, de géo, d'art plastique, d'espagnol, de sport. Donc c'est un champ très vaste, donc c'est un terrain de jeu qui est assez sympathique pour nous. On essaye aussi de travailler en lien avec les enseignants-chercheurs pour valoriser la recherche à Rennes 2 parce que une université c'est un lieu de formation et de recherche et on y tient. Et puis notre objectif aussi, notre mission, c'est de valoriser la pratique artistique étudiante à travers les projets collectifs et les projets individuels. Donc on accompagne le groupe chorégraphique universitaire, le big band, la chorale étudiante, mais on propose tout au long de l'année des ateliers de pratique artistique pour les étudiants.
Et vous dites que c'est ouvert aux étudiants particulièrement, mais également au public rennais. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques différences tarifaires selon le public. Pardon, c'était ma question en fait. C'était une distinction tarifaire selon le public.
Les questions d'accessibilité, oui, voilà. Conditions tarifaires. Oui, on est très soucieux d'être le plus accessible possible. Et oui. En même temps, comme vous en doutez, les universités en France ne sont pas riches. Donc on doit essayer de contribuer en faisant un peu de recettes quand même, de billetterie. Donc on tient à ce que la billetterie, les événements et la saison soient gratuites pour les étudiants et les étudiants. Donc là, c'est toujours gratuit, quel que soit le projet, les ateliers, les spectacles, les concerts, tout pour les étudiants et les étudiantes. Et pour le public externe, on a quelques événements qui sont payants. Et là, on a une grille tarifaire qui va de 3 euros pour ceux qui sont détenteurs de la carte sortir, donc plutôt des personnes qui sont en précarité ou au minima sociaux. 5 euros pour les jeunes et pour les étudiants qui ne font pas partie des universités de Rennes. Et puis le tarif plein qu'on a cette année volontairement baissé à 12 euros, ce qui n'est pas un tarif très énorme, mais voilà, on a conscience que pour certaines personnes ça reste un budget à sortir, mais on a sur l'ensemble de la saison, on a 5, 6, 7 maximum rendez-vous payants sur toute la programmation, tout le reste est toujours gratuit, donc ça reste très limité.
Vous avez parlé de mettre en valeur les artistes de Rennes 2, les étudiants, les professeurs, et j'aimerais parler de ce festival transversal, donc créé par Rennes 2, à Rennes 2, qui s'aventure encore davantage dans ce monde marin, avec des discussions environnementales par exemple. Et en tant qu'ancienne biologiste, j'ai besoin de vous demander quelle est pour vous cette importance d'un tel thème dans votre festival.
Alors... Merci de me faire parler de transversal parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. En fait, c'est un projet qui est porté et piloté par des étudiantes et des enseignants du département de l'aide dont on a depuis toujours le service culturel était partenaire. On a tout au long de la saison, on accueille des festivals qui sont des festivals rennais et qu'on accueille dans la saison. Et avec le festival transversal, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un festival de Rennes 2 qui s'exporte en dehors des murs du campus puisqu'ils sont invités, eux, dans les autres structures. Et le thème est choisi par les étudiants et les étudiantes du groupe. On ne leur impose pas la thématique. C'est eux qui nous disent on a envie de travailler sur cette thématique-là. Et à partir du thème qu'ils ont choisi, nous, on décline avec des propositions et on convient ensemble d'une programmation au tambour et eux déploient tout le reste de la programmation. Je vous avoue que sur le thème de la mer, effectivement, avec la thématique des ondes, par ailleurs, le match se faisait bien avec le spectacle qu'on accueille tout prochainement dans le cadre de la fête de la science et du festival maintenant, où il est aussi question d'ondes maritimes. Donc les échos se faisaient très naturellement. Et puis moi, j'habite au bord de la mer, donc plus je la retrouve, mieux je me porte.
Je voulais aussi vous parler de cette 10e édition du Tremplin Musique Actuelle, qui est aussi ouverte aux artistes émergents de l'université, des universités rennaises. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour marquer ces 10 ans, si on peut divulguer?
Alors, on a prévu de faire des choses et en fait, ça va être un projet collectif. Pour l'instant, ce qu'on a prévu, c'est d'ailleurs en partenariat avec vous, la Radio Silam, c'est de valoriser ces 10 ans du tremplin. On a demandé à des étudiants et des étudiantes, il y a deux garçons et une fille, du master EPRIC, qui est un master du département Infocom en culture et communication. Tous les ans, on travaille avec ce master et on fait le tutorat d'un projet pour un petit groupe d'étudiants de la promo. Et cette année, on a proposé comme projet tutoré les 10 ans du tremplin. Donc on a rencontré il y a quelques jours les trois étudiants et étudiantes qui se sont portés volontaires avec envie sur ce projet. Et donc ça va être à construire avec eux et elles, parce qu'on souhaite justement qu'ils s'emparent aussi de ce sujet, qu'ils nous fassent des propositions sur comment ils voient la valorisation de ce tremplin, parce que nous, on a envie de dignement fêter cet anniversaire et de montrer que c'est un tremplin qui a une belle vie encore devant lui, qui a rêvé des artistes, étudiants pleins de talents et qui maintenant tournent. On a quelques groupes des lauréats des années passées qui ont pas mal de dates et qui maintenant sont professionnels, signés dans des labels. Voilà, donc on a vraiment envie de valoriser ça. Et donc tout est à construire. Et c'est ça qui est plutôt chouette, c'est qu'en fonction des partenaires et du travail que va faire le groupe en question d'étudiants et étudiantes, et ben on aura un programme au mois d'avril, puisque le concert des lauréats sera le 2 avril au Tambour. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire précisément.
La programmation de cette année, 2024-2025, elle voyage et fait halte sur diverses îles artistiques, toutes plus qu'activement les unes que les autres. Mais pour choisir ces îles artistiques et ces artistes, quels sont les critères qui sont pris en compte lors du choix des intervenants, que ce soit étudiants, comme vous avez dit, mais aussi extérieurs, les invités?
Alors, on a des collaborations régulières déjà, par exemple le Festival Maintenant, qui est prochainement invité. On a un souci d'accompagner la création émergente, c'est un critère. Donc les jeunes équipes du territoire rennais et plus largement du Grand Ouest, puisqu'on a une collaboration avec l'Université d'Angers et l'Université de Nantes sur la circulation de projets artistiques émergents sur nos territoires. Donc là, Serena, c'est un spectacle que j'ai vu à l'Université d'Angers. Jeudi soir, je vais voir la création d'une toute jeune équipe au TU à Nantes, et c'est un spectacle qu'on accueille en mois de janvier chez nous. Donc voilà, on travaille sur cette circulation et l'accompagnement professionnel des jeunes équipes. Il y a un critère tout simplement technique, parce que le plateau du Tambour est très chouette. On a une immense chance d'avoir un théâtre comme le Tambour sur le campus, mais il nous limite pour certaines choses. Donc on fait peu de danse, par exemple, parce qu'on n'a pas un plateau qui est très adapté pour ça. Donc quand on fait de la danse, c'est comme au mois de janvier, ça va être un spectacle hors les murs, déambulatoire, dans la bibliothèque universitaire. Donc on invente des nouvelles choses. Et puis un critère économique, on accueille rarement de grosses formations. Parce que qui dit grosse formation dit gros budget, et on a des petits budgets. Mais en fait, moi, ce n'est pas un souci. Je trouve que le critère économique n'est pas très contraignant, parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec des artistes et des petites formations. Il y a beaucoup de choses à montrer. Et puis après, il y a cette colonne vertébrale dont je parlais tout à l'heure, qui est de travailler sur les sujets, les sujets de société qui sont nos thèmes de travail et de recherche à Rennes 2. Et donc, on essaye d'avoir une programmation quand même... qui est inscrite dans son temps, inscrite dans une réalité quotidienne, et puis qui questionne et qui va peut-être nous aider à appréhender des problématiques sociétales et nous amener à y réfléchir en faisant un petit pas de côté. Et moi, c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est qu'en fait, j'adore lire, me documenter, lire la presse, etc. Mais je trouve que les artistes nous amènent à regarder différemment les sujets et les problèmes, et que quand on s'adresse au cœur, on reçoit différemment que quand on s'adresse à la tête. Donc parfois, de juste se laisser toucher et de laisser parler sa sensibilité en tant que spectateur ou spectatrice, voilà, c'est ça qui fait la différence sur des thématiques qui peuvent être quand même des thématiques très importantes. Et puis après, il y a l'ouverture des saisons, là, qui réunit tout à la fois. parler avec le cœur, inventer, innover... être au plus près des gens, et donc accueillir une yourte pour ouvrir la saison sur le campus.
Et oui, cette yourte, j'allais y venir, qui est dressée devant la BU et qui loge la compagnie Calapia Cirque, qui s'est installée ici temporairement. Mmh. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se trame à l'intérieur? Ouais.
c'était une vraie envie pour le coup d'accueillir ce projet, parce que on voulait ouvrir la saison avec quelque chose qui soit marquant, qui porte haut et fort nos valeurs, qui répondent aux questions qu'on se pose tous les jours de l'accessibilité de la culture à toutes et tous, qui donne envie de passer un petit œil, une petite tête à des gens qui vont jamais au Tambour, parce qu'ils peuvent passer devant tous les jours et qu'ils savent pas ce que c'est, ils n'osent pas. Et là, la yourte, je sais pas, c'est un objet qui amène la curiosité et qui fait qu'on va peut-être passer ce premier frein. Et donc voilà, l'objet yourte pour ouvrir la saison, c'était tout ça, répondre à toutes ces envies là et c'est un spectacle d'une compagnie qui est une compagnie particulière, c'est un collectif de 40 artistes qui travaillent en société coopérative, donc dans une logique horizontale, donc qui porte dans son ADN une manière de fonctionner qui est autour de la question du commun et comment on fait ensemble. Et le propos du spectacle, c'est ça, c'est comment on fait ensemble des choses et comment on se fait confiance et comment ensemble on on avance. Donc voilà, tout un beau message pour démarrer la saison. Et c'est tout, on a monté la yourte ensemble, vendredi après-midi. Moi, je n'avais jamais monté une yourte. Voilà, je peux faire donne sur mon petit, ma petite liste des choses à faire dans sa vie. J'ai monté une yourte. Donc c'était très sympa, un moment très chaleureux de partage. Et même s'il faisait froid et qu'il pleuvait. Et on accueille des projets tout au long de la semaine. Donc 4 représentations tous les soirs de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Des ateliers tous les matins de pratiques artistiques de cirque et d'entraînement mental. Donc il s'agit de travailler collectivement sur sa confiance en soi et la confiance dans les autres. Et puis on va avoir un reportage avec l'équipe du Créa sur toute cette petite aventure. Et ce midi, on a accueilli un rendez-vous particulier aussi.
Oui, on m'a dit sous cette yourte ce midi qu'il y avait une distribution de cartes. Quelles sont ces mystérieuses cartes?
Et ben, c'était pour le coup l'occasion de boucler la boucle ce midi, parce qu'on a mené toute l'année dernière un projet qui mêlait étudiants, personnels et habitants pour leur demander de cartographier de manière subjective le campus Rennes 2 et leurs usages, leur manière d'habiter le campus. C'était l'occasion de visibiliser les habitudes, les zones de confort, les zones de mal-être, les endroits où il y a des problèmes d'accessibilité. Enfin voilà, un an de travail avec l'agence Sensible qui a fait un très beau boulot de coordination, des étudiants du master EPRIC, les habitants, les personnels, voilà. Et ces cartes ont été réalisées, affichées en très grand format plusieurs fois sur plusieurs lieux du campus. Et là, on a travaillé sur un format plus petit, un format poche, donc carte routière qu'on a fait imprimer et remis officiellement à tous les participants sous la yourte pour rendre ça plus convivial encore ce midi. Donc c'était le tout premier rendez-vous. Mmh. Et après, les ateliers commencent demain matin.
Okay. Merci Sarah pour merci. Cette interview.
Merci Sarah. Merci d'avoir répondu présente pour cette première de...
Honorée d'être la première invitée.
De 6 heures avant minuit. Et puis, on entendra beaucoup parler du service culturel de l'université sur Scilab cette année, parce que je me permets d'annoncer du coup que le service a un créneau cette année. Pour cette saison, c'est le lundi à 9h. Donc ça s'appelle Battement, c'est ça?
Mmh. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qui nous anime.
Super. Et ben rendez-vous tous les lundis à 9h pour entendre le service culturel de l'université.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Scilab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et tout de suite, on lance notre première chronique fake news. Sachez que tous les lundis, dans 6h avant minuit, on va vous décrypter une fake news et la tuer dans l'œuf. Hein. On commence avec Aglaé. Aujourd'hui, on décrypte notre première fake news, les accusations de trafic sexuel contre le rappeur P. Diddy, qui sont en ce moment instrumentalisées pendant la campagne présidentielle américaine. Aglaé.
Et oui, une fois n'est pas coutume, les élections présidentielles américaines sont l'occasion pour les partisans de Donald Trump d'attaquer ses opposants politiques. Kamala Harris, la candidate démocrate, est cette fois victime d'une vaste campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Elle est accusée d'avoir eu des liens avec le rappeur Puff Daddy, aussi connu sous le nom de P. Diddy, actuellement visé par des accusations de trafic sexuel. Tout commence le 17 septembre, soit le lendemain de l'arrestation du rappeur. Un compte Twitter pro-Trump publie alors une photo prise lors d'un événement caritatif datant d'il y a plus de 20 ans. On y voit notamment Kamala Harris enlaçant P. Diddy. En réalité, cette photo n'est qu'un grossier photomontage. L'homme aux côtés de Kamala Harris est en fait Montel Williams, son ancien compagnon, et son visage a simplement été remplacé par celui du rappeur. Malgré les démentis de Montel Williams, de nombreuses autres publications, notamment sur X, tentent d'impliquer Kamala Harris dans les affaires de Diddy. D'autres internautes affirment même « N'oubliez jamais comment Kamala Harris a débuté ». Elle n'est pas non plus étrangère aux soirées Diddy à Los Angeles. Les soirées dont il est ici question sont celles durant lesquelles le rappeur aurait organisé son trafic. Évidemment, le but de ces posts est de discréditer la démocrate et faire en sorte qu'elle ne soit pas élue. En attendant, les adeptes de Donald Trump se gardent bien de parler du fait que l'ex-président a véritablement eu des liens avec le rappeur. Il déclarait même en 2012 « c'est un bon gars et un ami à moi » en parlant de Diddy.
La campagne présidentielle américaine, encore une fois, qui est féconde en fake news. Je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, hein, Aglaé.
Effectivement.
Quant à moi, il faut que je vous dise quelque chose sur notre nouveau numéro de téléphone.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Et oui, vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, peut-être un retour sur nos reportages, qui sait. Laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35, je le redis encore une fois, 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Et oui, avec cette nouvelle émission, on avait envie d'être encore plus proche de vous. Merci Dan pour la technique, merci Eva, Cyriane et Aglaé. On se retrouve dès demain, à quelle heure déjà?
18h, ouais, c'est comme ça, ça, hein. Ça je crois, je suis pas sûre. Hein.
Rendez-vous demain, 6h avant minuit.
Salut.
Si, la radio sauvage.
Et 6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.